Bonjour à toutes et à tous. Les beaux jours semblent revenir et pourtant vous êtes là cet après-midi et vous avez très probablement choisi la meilleure part. Nous reprenons aujourd'hui le fil de notre parcours biblique de la Genèse à l'Apocalypse. Cette semaine, les groupes de maison ont entamé l'étude du livre du Deutéronome. Et personnellement, c'est l'un des livres bibliques, de mes livres bibliques préférés. Parce qu'on y trouve le commandement le plus important. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. À plusieurs reprises, Dieu demande, dans ce livre, Dieu demande à son peuple de l'aimer. L'alliance que Dieu a établie avec son peuple est une alliance d'amour. Dieu aime son peuple. C'est la raison pour laquelle il l'a choisi parmi tous les autres peuples. Et en retour, le peuple d'Israël doit aimer son Dieu et l'aimer exclusivement. Et avant d'aller plus loin, récapitulons un petit peu ce qui s'est passé avec ce peuple depuis sa sortie d'Égypte. Vous admirerez mon joli dessin. Dans Exode 12, nous avons vu que le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte. Dieu l'a libéré de l'esclavage dans lequel il était prisonnier. Puis, dans Exode 20, nous avons vu que Dieu a donné sa loi à ce peuple sur le mont Sinaï, les 10 commandements. Dans Lévitique 16, après avoir construit le tabernacle, eh bien, le peuple a pu recevoir des lois, et notamment, plus particulièrement, Lévitique 16 nous parle du jour des expiations. C'est-à-dire du jour où Dieu pardonne tous les péchés du peuple, une fois par an. Et puis dans Nombre 14, que vous avez également étudié en groupe de maison, le peuple, à un moment donné, aux portes même du pays promis, le peuple ne veut pas y entrer. Le peuple a trop peur d'entrer dans ce pays qui est habité par des géants. Et le peuple est condamné par Dieu à errer 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que la première génération, celle qui ne voulait pas y entrer, périsse dans ce désert. Et le livre du Deutéronome s'ouvre sur la 40e année. Nous sommes 40 ans plus tard. Le peuple d'Israël se trouve à l'est du Jourdain. Là, juste pour situer un petit peu l'action, donc il y avait le Sinaï, là où le peuple a reçu les 10 commandements, et puis ils sont en route vers la terre de Canaan. Et ils se trouvent du côté de l'est du Jourdain, le fleuve qui les sépare de cette terre promise. Et en fait, ils ont déjà conquis une partie des territoires de ce côté du Jourdain, ce que vous voyez en orange à droite pour vous. Mais vous voyez qu'un vaste pays de l'autre côté du Jourdain les attend encore. Et Moïse, quant à lui, arrive bientôt au bout de sa course et il doit passer le flambeau. Avec la nouvelle génération, celle qui a survécu, il renouvelle l'alliance avec Dieu. Et le texte que nous avons lu se trouve dans une section du livre où il est question des responsables du peuple. Moïse va partir, qui va assurer la conduite d'un peuple si nombreux? Eh bien, Dieu a prévu des juges, Dieu a prévu des rois, Dieu a prévu des prêtres et des lévites. Et en dernier lieu, dans notre texte, Dieu a prévu des prophètes, des porte-paroles de Dieu. Après Moïse, Dieu va continuer à parler à son peuple et il le fera par l'intermédiaire de ses messagers. Et aujourd'hui, Dieu nous parle encore par les écrits de ses prophètes lorsque nous lisons ce qu'il a révélé au fil des siècles dans la Bible. Et plus largement, c'est toute la Bible qui est parole de Dieu. C'est pourquoi écoutons les prophètes suscités par Dieu, parce que c'est par eux que Dieu nous parle. Écoutons les prophètes suscités par Dieu, c'est par eux que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et premièrement, ce que Dieu nous demande à partir de ce texte, c'est de bannir ce que lui-même interdit. Bannissons ce que Dieu interdit. Relisons le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Les lois qui sont contenues dans le Deutéronome concernent désormais la vie en terre promise. Le séjour dans le désert va bientôt prendre fin et désormais, ils vont entrer en terre promise et ils reçoivent ainsi des lois qui vont régir leur vie en terre promise, en terre de Canaan. C'est donc en préparation de cette vie que ces lois sont données à la nouvelle génération. Et d'emblée, Dieu dit ce qu'il pense des pratiques des autres nations. Ce sont des pratiques abominables, qui font horreur à l'Éternel. Et le verset 12 indique que c'est pour cette raison, entre autres, que Dieu va déposséder ces peuples de leur terre. Que Dieu va chasser ces peuples de leur terre. Verset 12, en effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Vous voyez l'insistance sur cette idée d'abomination. Dieu ne veut surtout pas que son peuple se mette à imiter ses pratiques cananéennes. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, regardons les versets 10 et 11. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. » Ce n'est pas la première fois dans la Bible que Dieu condamne les pratiques occultes. Déjà dans les livres de l'Exode et du Lévitique, il en est question. Nous trouvons de telles interdictions. Ces pratiques font horreur à l'Éternel. Faire passer son enfant par le feu, voilà un sacrifice humain intolérable. Alors sans doute qu'aujourd'hui, très peu de personnes font cela. Mais à l'époque, pour adorer les dieux ou pour chercher leur faveur, eh bien, on faisait passer des enfants par le feu. Et l'archéologie a pu déterrer tout cela et montrer qu'on a découvert effectivement des enfants, des crânes d'enfants calcinés. Et selon la superstition de l'époque, cela pouvait apaiser la colère du dieu invoqué et ainsi changer le cours des événements. D'autre part, aucun membre du peuple de Dieu ne doit se livrer à la divination ou à la magie. Personne en Israël ne devra entrer en contact avec des esprits ou avec le monde des morts. Dieu a en horreur toutes ces pratiques, et je le répète encore une fois. Et il importe que nous enseignions cela aussi à nos enfants et à nos jeunes. Je me souviens que très tôt, ma mère m'avait mis en garde contre toutes ces choses. Je me souviens aussi qu'au groupe de jeunes, les moniteurs nous enseignaient à ce sujet. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur d'avoir eu de tels garde-fous. C'est notre devoir aussi de pouvoir enseigner nos enfants, nos jeunes à ce sujet-là. Et le reste de la Bible nous montre aussi que ces pratiques sont en lien avec Satan et ses démons. Et c'est une raison supplémentaire d'être extrêmement prudent et de ne même pas essayer par curiosité, ni même de prendre à la rigolade de telles pratiques. Dans le livre des Actes, nous avons ce récit où l'apôtre Paul rencontre une femme qui a un esprit de divination, qui est capable de faire des prédictions. Et après plusieurs jours, fatigué d'être suivi par cette femme qui criait derrière lui à tue-tête, Paul chasse au nom de Jésus le démon qui était en elle. Vous voyez dans cette histoire-là le lien entre divination et démon. Or, nous n'avons sûrement pas à nous associer à des démons. Mes amis, nous avons dans la Bible une mise en garde très sérieuse concernant toutes ces pratiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, consulter un voyant ou un astrologue ne choque personne. Cela concerne n'importe quelle catégorie sociale, y compris la classe politique. Dans les journaux ou les magazines, vous trouvez des horoscopes. À certains endroits de Paris, et peut-être ailleurs, des gens vous distribuent une carte de visite qui vous vante les services d'un marabout. Et un sondage récent révèle que 58% des Français interrogés croient en l'astrologie, en la sorcellerie, en la voyance. 58% des Français interrogés. Il semble que ces dernières années, la tendance est en hausse. Et ce sont en particulier les 18-24 ans qui semblent les plus convaincus de cela. Et dernièrement, 20% des adeptes de ces pratiques ont consulté, entre guillemets, un spécialiste pour trouver des réponses en lien avec la crise sanitaire actuelle. Nous vivons dans un tel environnement. Et vous connaissez peut-être des personnes qui sont adeptes, voire qui vous ont déjà invité à essayer. Mes amis, n'y pensons même pas. Si nous cherchons des réponses à nos questions, ce n'est sûrement pas auprès de tels praticiens qu'il nous faut nous tourner. Dieu ne dit pas les choses à demi-mot. Verset 12, « Celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. » Pour chercher nos réponses, nous nous tournons vers Dieu et vers sa parole. Tout ce que Dieu a voulu que nous sachions se trouve ici, dans sa parole. Toute l'Écriture est utile pour nous instruire et pour nous conduire au salut. Toute l'Écriture, toute la Bible. Lisons encore ce que Dieu dit à son peuple, verset 13. « Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. » Dieu veut un peuple qui soit entier pour lui. Le mot hébreu qui est employé ici est celui qui signifie dans un autre contexte « sans défaut ». Par exemple, pour désigner un animal qui est destiné au sacrifice, un animal sans défaut, c'est le même mot. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Dieu nous veut entier et jamais, même dans la détresse, nous ne devons céder à la tentation de nous associer à ses activités. À ses activités qui sont liées aux ténèbres et donc à Satan. Jamais. La parole de Dieu est limpide à ce sujet. À toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Par le passé, vous avez peut-être essayé de telles pratiques. Mais si vous vous en êtes repenti, alors Dieu vous a pardonné. Et à vous qui faites maintenant partie du peuple de Dieu, il y a une autre voie à suivre, plus lumineuse. Une voie éclairée par la parole de Dieu. Une voie éclairée par ce qui sort de la bouche de Dieu. Et au milieu des mille et une voix que nous entendons au quotidien, cherchons par-dessus tout la voix de Dieu. Écoutons ce que Dieu veut nous dire. J'espère ne pas vous avoir trop assommé par ce discours, mais il est tellement important de pouvoir insister là-dessus. Si Dieu interdit à son peuple d'imiter les pratiques cananéennes, ce n'est pas non plus pour que le peuple se débrouille par ses propres moyens. Non, Dieu a ses propres porte-paroles pour continuer à guider le peuple dans ses voies. Et c'est pour ça que l'exhortation suivante est d'écouter. Écoutons ceux que Dieu a mandatés. Verset 14, en effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est Moïse qui parle. C'est lui que vous devrez écouter. Alors que les autres nations écoutent des astrologues et des devins, Dieu veut que son peuple écoute sa parole en écoutant ceux qui sont ses messagers. À l'avenir, après Moïse, Dieu enverra des prophètes qui sont issus du peuple d'Israël et qui joueront le rôle que Moïse a joué durant 40 ans dans le désert, à savoir communiquer les paroles que Dieu veut adresser à son peuple. Le peuple d'Israël n'a pas besoin de se tourner vers des devins. L'Éternel va leur envoyer des personnes qui parleront de sa part, des personnes qui parleront en son nom, des personnes qui transmettront fidèlement les paroles de Dieu. Et les versets suivants donnent la raison pour laquelle l'Éternel s'adresse à son peuple par des intermédiaires et pas directement. Parce que à Horeb, qui est l'autre nom pour le mont Sinaï, le peuple a déjà fait l'expérience d'entendre directement la voix de Dieu. Ils ont déjà entendu cette voix de Dieu directement. Je vous renvoie à Exode 20. Et le peuple ne l'a pas supporté lorsque cela s'est produit. C'était tellement terrifiant pour Israël qu'il a supplié Moïse de jouer le rôle de prophète. Si Dieu veut dire quelque chose à son peuple, que cela passe d'abord par Moïse. Et voyez l'approbation de Dieu à ce sujet. Ce qu'ils ont dit est bien. Dieu décide donc que désormais, il enverra à son peuple des intermédiaires pour communiquer sa parole. Verset 18, « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » La fonction du prophète que nous voyons régulièrement dans la Bible, la fonction du prophète consiste à dire les paroles de Dieu. C'est pour cela que le peuple devra écouter ses prophètes, parce qu'ils disent les paroles de Dieu. Et ainsi, comme l'ont relevé plusieurs commentateurs, Dieu institue dans ces versets le ministère prophétique qui permettra au peuple de rester à l'écoute de Dieu. Dieu institue ici le ministère prophétique. Et voyez le verset 19, « Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Et encore une fois, le verbe « écouter ». Si quelqu'un ne prend pas au sérieux les paroles même de Dieu, il aura affaire à Dieu lui-même. Ce rôle de prophète, beaucoup l'assumeront au cours de l'histoire du peuple d'Israël. Nous pouvons mentionner à ce titre Samuel, Élie, Élisée, Ésaïe ou encore Jérémie et bien d'autres. Et ce ne sera pas forcément un ministère facile, car le message qu'ils apportent de la part de Dieu ne sera pas toujours écouté. Et aujourd'hui, devons-nous lire les écrits des prophètes de l'Ancien Testament ? À partir du moment où nous reconnaissons que toute la Bible est parole de Dieu, nous ne pouvons pas sauter des pages et éviter ces textes, même s'ils ne sont pas toujours faciles à saisir. Ces pages sont aussi inspirées par l'Esprit de Dieu, aussi inspirées que les récits de la Genèse ou que les évangiles. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous aborderons encore cette année en prédication ou en études bibliques, quelques-uns de ceux que nous appelons les petits prophètes. Qui d'entre nous pourrait nous parler du contenu de Nahum ? Ou le contenu de Sophonie ? Ou bien Abdias ? Tous ces textes sont dans la Bible. Et pourtant, Dieu demande à son peuple d'être à l'écoute de ses prophètes. Et si nous avons toujours ces textes en 2021, c'est que nous pouvons en tirer instruction pour notre vie et pour notre foi. D'ailleurs, nous avons le témoignage que les premiers chrétiens étaient attachés à ces textes. Les premiers chrétiens, avant la rédaction finale du Nouveau Testament, n'avaient que l'Ancien Testament. Ils ne pouvaient que s'attacher à ces textes-là. Et nous avons ce témoignage-là, l'apôtre Pierre le mentionne dans sa deuxième lettre. 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. et nous considérant comme d'autant plus certain la parole des prophètes. Vous, donc il s'adresse à ses destinataires, vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce ne sont pas n'importe quelles paroles. Dieu parle par ses prophètes, alors écoutons-les, lisons-les, étudions-les. Je reviens sur le verset 15 encore une fois. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, dit Moïse, c'est lui que vous devrez écouter. Non seulement ce texte parle des prophètes qui joueront un rôle similaire à celui de Moïse, mais il semble aussi orienter le peuple vers l'attente d'un prophète en particulier, qui sera comme Moïse. Et lorsque nous tournons les pages à la fin du Deutéronome, nous lisons ceci dans Deutéronome 34, 10. « Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » D'un côté, Dieu annonce qu'il y aura un prophète comme Moïse, et à la fin du Deutéronome, il se trouve qu'on a cette phrase qui nous dit qu'il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse. Cela laisse entendre que les prophètes qui ont succédé à Moïse n'allaient pas avoir un ministère comparable à Moïse. Il fallait encore attendre quelqu'un qui serait ce nouveau Moïse. Et lorsque nous faisons un bond dans le temps et que nous arrivons à l'époque de Jean-Baptiste, des prêtres et des lévites l'interrogent. Ils interrogent Jean-Baptiste. C'est ce que nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 21. Ils lui demandent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» C'est-à-dire l'un des prophètes. Et Jean-Baptiste dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Sous-entendu, es-tu le prophète que nous attendons toujours ? Le prophète comme Moïse ? Alors, qui est donc ce prophète, si ce n'est pas Jean-Baptiste ? Eh bien, pour l'apôtre Pierre, il est clair que c'est son maître, Jésus, qui est ce prophète. Et après avoir guéri un homme paralysé au nom de Jésus, Pierre explique à la foule que Jésus est le Messie et qu'il accomplit pleinement le texte de Deutéronome 18. C'est ce que nous lisons dans Actes 3, versets 19 à 23. Voici ce que Pierre dit à la foule. « Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qui vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi Moïse a dit, et nous retrouvons notre texte de Deutéronome, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. » Il est clair que Jésus est plus grand que tous les prophètes qui l'ont précédé. Et c'est encore Pierre qui a vécu cette expérience sur une montagne où il a vu son maître rayonnant de gloire. Une expérience qu'il a faite avec deux de ses compagnons et où il a entendu cette voix qui rend ce témoignage. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et qu'est-ce que Dieu ajoute ? Écoutez-le. Encore le verbe écouter. Jésus est non seulement le prophète par excellence, mais il est, selon cette déclaration, le Fils de Dieu. Bien plus, il est la parole faite chair. Et comme le souligne le théologien Henri Blocher, après les porte-paroles, la parole. Autrement dit, après les prophètes est venu celui qui est la parole même. Jésus-Christ ne fait qu'un avec le message qu'il porte. Ainsi, et je trouve la formulation intéressante, ainsi peut-il se prêcher lui-même. Jésus se prêche lui-même. Il est le seul à pouvoir le faire. Et écouter ou non son enseignement et son invitation à le suivre a des conséquences éternelles. La vie éternelle pour les uns et la condamnation éternelle pour les autres. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Et parmi ses contemporains, tous n'ont pas suivi Jésus. Mais des Juifs ont cru en lui. Et cela est vrai encore aujourd'hui. Si l'un ou l'une d'entre nous n'a pas encore reçu le message de Jésus-Christ, voici une de ses paroles qui nous livre son identité. Dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Dieu a annoncé à son peuple qu'il y aurait un prophète comme Moïse. Et Dieu a tenu parole. Et Dieu t'appelle à écouter celui qui veut t'offrir la vie éternelle. Celui qui est mort pour nos péchés, comme nous l'avons chanté un peu plus tôt lors du culte, dans le culte. Celui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité te permet d'entrer dans le peuple de Dieu. Écoute-le encore t'appeler. Et si toi, tu as déjà reconnu qu'il est bien le prophète et que Dieu a parlé par lui, alors écoute encore son enseignement. Écoute encore son message de grâce. Écoute encore son évangile. Et mets-le en pratique. Et j'insiste, mets-le en pratique. Parce que quand Dieu dit d'écouter, ce n'est pas simplement d'entendre des sons, des paroles, ce n'est pas seulement en comprendre le sens, c'est aussi obéir. Si tu lis en ce moment le Nouveau Testament, dans quel domaine le Seigneur te demande-t-il de lui obéir? Nous avons vu que Dieu commande à son peuple de ne pas se tourner vers les pratiques occultes, mais d'être à l'écoute de sa parole, annoncée par ses prophètes, dont Jésus est la figure par excellence. Alors terminons, comme notre texte, par une dernière mise en garde. Ne craignons pas ceux que Dieu n'a pas envoyés. S'il faut écouter ceux que Dieu a mandatés, eh bien ne craignons pas ceux que Dieu n'a pas envoyés. Verset 20, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Tu n'en auras pas peur. » Si les voyants sont d'emblée disqualifiés, il se peut qu'il y ait certains qui veulent aussi apporter des révélations de la part de Dieu. Et ces versets nous montrent que personne ne s'improvise prophète de l'Éternel. Si Dieu ne dit rien, tout ce qu'un homme peut dire de sa part n'est qu'invention. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de parler à son peuple, quand il le veut et en envoyant qui il veut. Mais c'est Dieu qui prend l'initiative. On ne s'improvise pas prophète de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu répond à une interrogation du cœur. Comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Il y a tellement de personnes qui parlent et qui enseignent. Comment reconnaîtrons-nous que l'Éternel n'a pas dit cette chose? Et c'est une bonne question. Et nous devrons aussi nous poser la question lorsque nous écoutons des enseignements, des prédications, comme maintenant. Et j'ai tout intérêt à vous prêcher la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Pour ce qui est de notre texte, le test le plus efficace est de considérer si ce qui est annoncé finit par se réaliser ou non. Il fallait donc attendre qu'il se passe quelque chose, ou plutôt qu'il ne se passe rien, avant de poser un jugement. Et la non-réalisation d'une parole, le fait qu'une parole ne se réalise pas, est déjà une preuve que Dieu n'a rien dit. Aujourd'hui encore, des personnes prétendent avoir des messages de la part de Dieu. Mais disons-le franchement, nous ne pouvons pas prendre au sérieux ceux qui nous annoncent n'importe quoi au sujet, par exemple, de la fin du monde. Si Jésus a dit que nul ne sait quand cela adviendra, si ce n'est le Père, alors n'écoutons pas celles et ceux qui prétendent le savoir. Si quelqu'un vous annonce une date en particulier, c'est de la prétention. Il existe bien des prédicateurs qui font une forte impression avec des messages alarmistes, mais qui ne débitent que des mensonges. Lorsqu'ils parlent, ça fait presque peur. Mais d'après ce texte, ne craignons pas ceux que Dieu n'a pas envoyés. Alors, il y a quand même une question qu'il faut soulever. Si quelqu'un annonce quelque chose qui finit par se produire, est-ce que cela veut dire que cette personne-là est un porte-parole de Dieu? Eh bien, pas forcément. Parce que ce qu'il faut évaluer, c'est aussi son enseignement. Qu'est-ce que cette personne nous enseigne? Et c'est ce que nous lisons quelques chapitres avant notre texte, dans Deutéronome 13. Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez, et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez. C'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez, et c'est à lui que vous vous attacherez. Même s'il y a accomplissement du signe, cela ne veut pas dire que le prophète en question est de Dieu. Il faut évaluer son enseignement. Est-ce que celui qui commence par dire « Dieu m'a dit que » donne un enseignement qui est conforme à la parole de Dieu? Et soyons certains de cela, le faux prophète nous conduira toujours sur des enseignements qui nous éloignent de la vérité biblique. Toujours. D'où l'importance, mes amis, d'où l'importance d'acquérir une connaissance solide de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Soyons des étudiants de sa parole. Pas simplement des lecteurs, soyons des étudiants de sa parole. Et que l'Esprit de Dieu éclaire toujours plus notre intelligence au sujet des paroles qu'il a lui-même inspirées. Le texte que nous venons d'aborder nous rappelle dans quel contexte Dieu demande d'écouter ses prophètes. Ce qu'il a commandé au peuple d'Israël, il le commande aussi à son Église aujourd'hui. Premièrement, bannissons ce que Dieu interdit formellement, l'occultisme dans toutes ses pratiques. Deuxièmement, écoutons ceux que Dieu a mandatés, les prophètes que Dieu a mandatés et son Fils qu'il a envoyé. Et enfin, ne craignons pas ceux que Dieu n'a pas envoyés et leurs prédictions mensongères. Si l'avenir nous paraît incertain, Nous avons pourtant, comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous avons pourtant une espérance concernant un avenir certain. Christ va revenir. Nous ne savons pas quand, mais en attendant, écoutons son enseignement. En attendant, vivons selon ses commandements et annonçons autour de nous que nous sommes encore dans une période de grâce. Et je citerai un dernier verset qui se trouve également dans le Deutéronome, et que sans doute beaucoup d'entre vous connaissez. Dieu s'adresse au peuple en lui disant « Oui, il t'a fait connaître, enfin Moïse dit plutôt, « Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. » Mais alors l'homme vit de quoi ? Mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Et c'est ce que Dieu a fait, notamment par l'intermédiaire de ses prophètes et de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous nous inclinons devant toi humblement parce que nous reconnaissons que ta parole est la vérité et que bien souvent nous sommes dans l'erreur et que nous avons besoin d'être éclairés par toi. Merci encore Seigneur pour ce que tu nous as rappelé. Merci encore pour ce que tu nous as enseigné et pour ce que tu nous pousses encore à mettre en pratique. Oui, ta parole est précieuse pour nous. Et merci d'avoir inspiré tous ces prophètes que tu as envoyés inlassablement auprès de ton peuple, qui n'était pas toujours à l'écoute. Mais aujourd'hui, ton Église veut t'écouter. Et nous voulons tenir compte de tous les enseignements que nous trouvons dans ta parole. Merci encore, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Merci encore, Seigneur, de nous bénir par ta parole. Et merci, Seigneur, parce que nous avons l'assurance, par ton esprit, nous avons cette assurance que cette parole que nous avons entre les mains est bien la tienne. Et c'est pour cela que nous voulons te louer pour cela. Nous voulons te remercier pour cela. Et que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, aide-nous à mettre en pratique cette parole jour après jour, pour ta seule gloire. Et c'est notre prière au nom de Jésus. Amen.